UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus une fois encore à nos émissions en français, en version originale sur Radio UMH, et ce depuis l'année 2009, 15 ans déjà de radio en langue française, à la radio de l'Université Miguel Hernández d'Elche sur la Costa Blanca, Alicantine en Espagne. Toujours abondamment arrosé de soleil et de températures bien agréables, même si on dit qu'ici c'est encore l'hiver. Et nous avons aujourd'hui parmi nous, pour mieux fêter ce 15e anniversaire, M. Marc Azéma, chercheur, archéologue, spécialisé dans l'art préhistorique et réalisateur de documentaires cinématographiques, spécialisé dans les nouvelles technologies de l'image. Bien le bonjour et très heureux de vous retrouver du côté d'Alicante après cette enrichissante première rencontre lors du Festival international de cinéma de Saxe cet été en Espagne.
Bonjour et merci pour votre accueil.
Alors, définir Marc Azéma, comme vous pouvez l'imaginer, relève presque d'une gageure. Ce n'est pas chose simple, en effet, puisque les domaines qui le caractérisent sont riches et variés, l'archéologie, la préhistoire et la réalisation audiovisuelle, entre autres. Peut-être vaudrait-il mieux que ce soit Marc Azéma qui se présente à vous, n'est-ce pas ?
Si vous voulez, bah écoutez, je pense que vous avez bien campé le personnage, entre guillemets. Bon, moi, je suis un peu atypique. C'est vrai que j'ai un pied dans la science et un pied dans la médiation, mais je suis avant tout un créatif. J'ai toujours rêvé d'images, j'ai toujours voulu, quand j'étais enfant, être dessinateur de BD, puis après cinéaste, puis après j'ai croisé la science. Et aujourd'hui, je mélange tout ça avec tous les éléments de pop culture qui me passionnent.
Avec grand bonheur, à vrai dire, et merci du partage. Et nous allons essayer de partager avec vous tous, chers auditeurs et auditrices, ce paradis féerique de créativité, de science, de culture que nous avons grâce à Marc Azéma. Et une question s'impose déjà, puisqu'on va en profiter pour voir un petit peu l'actu. Que faites-vous en ce moment, d'un côté Alicante, à Benidorm, si je puis dire, pour la précision, puis de l'autre, du côté de vos projets les plus proches dans le temps ?
Alors, c'est vrai que j'ai plusieurs films en cours de réalisation ou de finition ou de préparation, principalement d'exposition également. Et c'est vrai que j'ai l'habitude maintenant depuis plusieurs années de venir passer le mois de décembre à Benidorm, où mes parents ont un pied-à-terre. Bon, donc je viens, je loue un appartement. Et j'en profite également pour visiter donc évidemment cette région que j'aime beaucoup, pour me mettre un peu au vert et monter sur des films. Donc, ça fait 2-3 ans que je suis en montage tranquillement à Benidorm sur un de mes films. Et cette année, l'année dernière, j'ai fini le montage d'un film qui s'appelle Rupestre, qui est en cours de finition actuellement, qui devrait sortir en salle l'année prochaine. Et ce mois de décembre actuel, je travaille sur la finition d'un film qui m'est très, très, très important pour moi, qui est consacré à une personne très, très atypique, qui est un des pionniers du jeu vidéo mondial, Jordan Mechner, qui est notamment le créateur de la licence Prince of Persia, mais qui est également réalisateur, qui est également dessinateur de BD, une BD Ripley qui vient de sortir actuellement en Espagne, donc qui fait un peu l'actualité. Et donc quelqu'un pareil, qui est passionné à la fois de pop culture, d'histoire, et c'est quelque chose qui me parle beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce film, et j'ai choisi probablement de terminer son montage ici.
Eh bien, vraiment un pur bonheur de vous avoir ici dans nos studios en ce moment. Et que de questions qui nous viennent à l'esprit en écoutant tout ce que vous venez d'évoquer. On va y aller petit à petit, on n'a qu'une petite demi-heure, mais on va quand même essayer. Il y a encore une autre chose sur les réseaux, moi qui vous suis. J'ai pu constater qu'en ce moment, vous êtes en train de lancer un crowdfunding au nom très aguicheur, 13 cinéma, Kiss Kiss Bank Bank, qui joue d'un côté sur le titre de la chanson Mr. Kiss Kiss Bang Bang, du célèbre film Opération Tonnerre. Je suis très fan des James Bond, avec Claudine Auger comme James Bond Girl, en fait, 1965. Puis, qui fait écho également au film de 1995, Kiss Kiss Bang Bang. Donc, bien joué, bien trouvé. De quoi s'agit-il ?
Alors, c'est, là, donc c'est un film que, je vous ai dit, que, dont j'ai terminé le gros du montage, on appelle ça l'ours, c'est-à-dire c'est une maquette du montage à Benidorm en décembre 2023. Et donc ce film est actuellement en phase de post-production, c'est-à-dire on est sur à la fois l'étalonnage, le mixage, c'est-à-dire on travaille les couleurs, le son, etc., en vue d'une sortie salle qui est envisagée pour le mois de février 2025. Et donc pour finir cette étape très très importante qui doit préparer, qui doit mener le film en salle, on a fait appel à un financement participatif donc sur Internet, qui a pour objectif donc d'aider à payer tous ces frais, qui fait que ce film circulera, fera sa vie toute l'année 2025 en salle, avec également des temps d'animation liés aux dessinateurs qui ont participé à une expérience. Et c'est une expérience en fait artistique unique au monde. Alors on a pitché ça en disant Soulages, Picasso en ont rêvé, les rupestres l'ont fait. C'est un groupe de dessinateurs, les rupestres, de 7 personnalités de la bande dessinée française, très très connues, Trousse, Emmanuel Guibert, David Prudhomme, Chloé Cruchaudet, Edmond Baudouin, Pascal Rabaté, donc des célébrités, Étienne Davodeau, évidemment, auteur du droit du sol, donc des personnalités de la bande dessinée, et qui, pendant 10 jours, ont dessiné dans une... ont peint, ont gravé dans une grotte du département du Lot en région Occitanie. Pendant 10 jours, ils ont donné libre cours à leur imagination, mais dans les conditions d'expression des artistes préhistoriques d'il y a 35 000 ans. C'est quelque chose qui, à ma connaissance, est assez unique en ce genre. Donc c'est pourquoi on a fait ce film. On les a suivis pour cette expérience. Et maintenant, voilà, on veut montrer ça au public dans le cadre d'une salle de cinéma qui est aussi également un espace immersif actuel, mais qui fait écho un peu avec cette grotte originelle où on a pu, on a envie de partager ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait appel à ce financement participatif avec la société Passé-Seine pour pouvoir, entre guillemets, amortir ce qui est en fait une autoproduction indépendante qui est un peu en dehors des circuits habituels sur lesquels je suis, plutôt télé ou musée, mais qui me tient particulièrement à cœur parce que ça aborde à la fois l'archéologie et la bande dessinée, et que pour moi, en tant que chercheur, j'ai travaillé pendant très longtemps dans ce domaine des grottes, et notamment dans la grotte Chauvet, et que j'ai pu mettre en évidence que les origines, finalement, de la bande dessinée, qu'on qualifiera de narration graphique pour garder des termes scientifiques, remontent à cet art des cavernes originelles, et en particulier dans la grotte Chauvet.
Vraiment très envie de pouvoir assister à ce visionnage. Et en fait, est-ce que vous envisagez la possibilité que l'on puisse voir également donc ce projet, et même voir d'autres, en Espagne ou ailleurs?
Alors, ça me tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire que l'objectif, évidemment, parce que là, on est au-delà des nations, j'allais dire, on est sur... on parle de l'art originel, de l'art des cavernes, et en particulier de l'art des cavernes paléolithiques, c'est-à-dire l'art le plus ancien de notre humanité. Et c'est vrai que les deux pays qui sont les plus riches à la matière sont la France et l'Espagne. Donc c'est vrai que, ne serait-ce que pour cette raison-là, j'ai envie que le film vive en Espagne. Donc on va travailler, justement, ça fait l'objet aussi de cette demande de financement participatif, à une version espagnole. Donc ça, on va aborder cette question-là pour que justement le public espagnol ait accès à cette expérience. Alors probablement dans le cadre d'une diffusion plutôt cinéma, avec, si possible, ça c'est des choses qui peuvent être organisées à la fois avec les salles de cinéma ou les alliances françaises, enfin, les instituts, etc., ou les universités, la présence d'un ou plusieurs dessinateurs, parce que ce sont des artistes qui ont l'habitude de voyager de par le monde. Là, actuellement, il y en a deux qui sont au Japon. C'est vraiment des artistes qui ont cette habitude-là, et qui ont aussi cette envie aussi de communiquer cette expérience-là. Donc, on ne va pas se priver, évidemment, de travailler sur cette version espagnole. Et également, pour compléter un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le film sur Jordan Mechner, qui sortira l'année prochaine en France à l'été, vers l'été 2025, donc qui est sur un des pionniers du jeu vidéo mondial, évidemment très connu en Espagne, à l'Alicia Prince of Persia. Bon, on est en train de travailler avec mon ami Miguel Herrero actuellement sur une version espagnole qui serait qui serait diffusée probablement l'été prochain. Enfin, il y aurait une projection l'été prochain. On est en train de réfléchir à ça et pourquoi pas une exploitation également dans le cadre du circuit de salle ou télévision espagnole.
Oui, nous disons également bonjour à Miguel Herrero, directeur du Festival international du cinéma de Saxe, chercheur à son tour et personne liée également à la création cinématographique et ouvert à plusieurs domaines également, quelqu'un qui a également travaillé sur la magie et la magie du cinéma et ses origines. Et voilà. Et en ce moment, donc, revenons à un sujet aussi qui me tient particulièrement à cœur. Vous êtes dans la reconstitution virtuelle des vestiges archéologiques. Et la question qui se pose en ce moment, est-ce que vous êtes déjà en train de travailler par le biais de l'intelligence artificielle? Et comment, le cas échéant, cela est-il en train de bousculer ou de faire avancer votre travail?
Alors, c'est vrai que la question de l'IA se pose en matière de reconstitution, en images de synthèse, donc principalement des vestiges disparus. Mais bon, moi, c'est un peu une spécialité que j'ai mise en avant dans mes films depuis maintenant les années 95-96. J'ai, dans le cadre d'un film assez personnel sur le passé antique de ma ville, Narbo-Marsus, qui était la première capitale gallo-romaine de mon pays, hein, donc actuellement Narbonne, on avait en 96 reconstitué une des villas romaines de la ville en 3D, et c'était, sans le savoir, on était un peu fous avec des jeunes infographistes de la région, on était en train de réaliser une des premières reconstitutions de monuments, de vestiges archéologiques, et notamment avec la particularité d'être un plan séquence de 6 minutes, chose que personne ne faisait à l'époque, parce que c'était trop compliqué de calculer des séquences en temps réel, en plan séquence pour la télé ou le cinéma de 6 minutes. Donc on avait fait ça. Donc à l'époque, évidemment, tout ça était l'œuvre de l'esprit humain via des outils infographiques qui étaient en train de se mettre en place et d'être utilisés pour ce type d'application. On était vraiment dans les premiers temps de reconstruction de monuments anciens par le biais des 3D, etc. Et c'est vrai que depuis, bon, j'ai tout au long de ma carrière de cinéaste, j'ai toujours travaillé avec ces outils-là pour reconstruire des vestiges romains, des vestiges mais également préhistoriques, des vestiges médiévaux, etc. Et aujourd'hui, on travaille notamment, je travaille sur un documentaire sur les cloîtres qui ont voyagé depuis ma région, l'Occitanie, vers les États-Unis et qui sont à l'origine de la naissance d'un des musées peut-être les plus connus, les plus méconnus de New York, alors que il renferme la plus grosse collection d'art médiéval de l'ensemble du continent américain, qui est le musée des cloîtres, hein, qui est au nord de Manhattan, mais qui est superbe, qui est utilisé souvent au cinéma. Enfin, je sais pas si ça vous intéressera, mais il a été notamment utilisé récemment sur le remake de West Side Story par Steven Spielberg, mais dans des vieux Clint Eastwood, etc. On le voit régulièrement. Donc un cadre exceptionnel qui, en fait, a la forme d'une abbaye médiévale au cœur d'un des plus jolis parcs de la ville, au nord de Manhattan, mais qui est un peu à l'extérieur des circuits touristiques. Et donc, là, je suis en train de raconter un peu l'histoire des cloîtres qui sont à l'origine de ce monument, qui sont en fait 4 cloîtres de ma région, et qui ont été en partie démontés, et puis achetés par un collectionneur qui les a remontés là-bas avec l'aide de Rockefeller. En gros, c'est le résumé. Et on est en train d'utiliser les images 3D pour reconstituer les vestiges originels, les cloîtres originels, c'est-à-dire faire comme si les vestiges revenaient des États-Unis pour prendre leur place en fait dans la région. Donc il y a toute une réflexion par rapport à ça. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, on est en train de voir effectivement comment nous appuyer par rapport aux outils d'IA, à la fois pour compléter évidemment les manques de ces différents vestiges, dont certains ont définitivement disparu parce que soit ils sont éparpillés sur le territoire, soit ils ont été, voilà, bon, c'est des choses qui ont disparu. Et c'est vrai qu'une des idées aussi, c'est d'utiliser l'IA aussi par rapport au collectionneur qui a fait transférer ses cloîtres, et on est en train de faire des études aussi pour reconstituer quelque part via l'IA ce personnage et le traiter également. C'est-à-dire il y a le côté reconstitution qui fait que l'IA peut aider effectivement à compléter des travaux. À l'heure actuelle, on est plus dans le complément parce que laisser l'IA se débrouiller toute seule pour reconstituer des monuments anciens, c'est très très compliqué. Il faut la guider. C'est un enfant, quoi. Enfin, vous le savez, c'est un enfant, mais qui est de plus en plus précieux, qui est à la fois un outil et un enfant. Un enfant qu'il faut éduquer, qui vous aide, mais il faut aussi qu'il vous écoute, cet enfant. Donc, il faut des spécialistes. Moi, j'ai la chance de travailler notamment avec un des plus grands spécialistes de la reconstitution sur l'Antiquité, qui est Jean-Claude Golvin, bon, qui a énormément travaillé, qui a un savoir-faire énorme. Et donc, l'idée, c'est progressivement, effectivement, de voir comment cet enfant peut travailler avec ce genre de personnes. Également, juste pour terminer, c'est bien mettre en évidence que cette IA aussi, elle nous aide à... Vous le savez, elle peut être de secours aussi pour tout ce qui est montage, le traitement de l'image, la couleur, etc. Et c'est vrai que ça peut être vachement intéressant dans le cadre aussi de reconstruction archéologique pour travailler autour de la couleur, autour de la reconstitution de forme, mais pas que, voilà, également sur la couleur. Ça, c'est quelque chose de très très fort.
Alors, merci beaucoup de toutes ces informations. C'était l'une des questions que je voulais vous poser hein, par rapport justement aux quatre cloîtres français à New York, à leur importance culturelle, non ? Comment ils ont été préservés tout au long de ces années, tout ça. Et j'ai eu la chance de pouvoir déjà accéder un petit peu à cette histoire-là l'été dernier, quand nous nous sommes rencontrés. Et ça m'avait quand même percuté. C'est vraiment assez impressionnant de se retrouver à Manhattan, dans le nord du Manhattan, un peu déjà... pas vraiment dans le centre-centre-ville, un peu dans une position un peu excentrée, et de faire ce bond dans le temps et de se retrouver dans cet espace français au milieu d'un continent vraiment nouveau. Et voilà, donc normalement nous faisons, je vais être sincère avec vous, une petite pause musicale au milieu de cette émission, mais nous n'allons pas la faire parce que je pense que c'est hyper passionnant. J'ai envie d'en apprendre davantage et je crois que nos auditeurs et nos auditrices aussi. Pas de musique, non, parce qu'on a beaucoup de questions à poser et beaucoup de choses à apprendre de la part de Marc Azéma. Et voilà, donc voilà, c'est vraiment assez incroyable, non ? Et venant d'intégrer moi-même, il y a à peine quelques semaines, un groupe universitaire international de recherche sur le domaine de la résilience de la littérature moyennant l'intelligence artificielle à travers l'Université d'Alicante. Et étant constamment en contact avec un entourage de plus en plus familiarisé avec des applications genre ChatGPT, avec nos étudiants, parfois on se pose la question si on doit leur demander certaines activités à faire à la maison ou s'il vaut mieux les faire en cours devant soi pour qu'ils n'aient pas, entre guillemets, triché ou cédé de cette technologie quand elle n'est pas bien appliquée. Si c'est du copier-coller, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, comment ne pas tenir compte de cette réalité, n'est-ce pas ? Et au juste, en ce moment, le célèbre musée archéologique de la province d'Alicante, classé meilleur musée européen en 2004, donc il y a une vingtaine d'années exactement, est en train de travailler à grande vitesse, à vitesse grand V, en employant cette technologie, et les résultats sont vraiment bluffants. J'ai eu un entretien avec son directeur, le conservateur, M. Manuel Olcina, qui est un ami et un grand professionnel, qui m'a montré, ça c'est pas encore public, j'ai pu le voir, disons quasiment en cachette, c'est une sorte de, pour moi c'est un cadeau, vraiment un don. Et j'en suis resté vraiment complètement sidéré, alors qu'on en est sans doute qu'au début, à l'avenir, puisqu'il m'a dit que dans quelques semaines, quelques mois, cette technologie avance tellement vite, que vraiment tout ce que l'on connaît jusqu'à présent va vraiment chambouler le domaine de la reconstruction archéologique et historique, la reconstruction de personnes qui ont vraiment l'air d'être absolument réelles. On s'y perd, vraiment, on s'y perd. Je vais aborder aussi un sujet qui me tient vraiment, vraiment à cœur parce que je suis très fan de Marvel et j'ai adoré la guerre de Kirby. On va en parler. Que représente-t-elle, que représente la guerre de Kirby pour vous dans le contexte de votre cursus cinématographique ?
Alors, la guerre de Kirby, c'est aussi, vous le savez, un cas de résilience, mais en matière de bande dessinée. En fait, on extrapole par rapport à la littérature, mais c'est un cas de résilience d'un des plus grands créatifs, un des plus grands, pour moi, graphistes du XXe siècle, Jack Kirby. Donc, on dit qu'il a co-créé l'univers Marvel avec Stan Lee, qui est beaucoup plus connu. Bon, on sait très bien maintenant dans le milieu de la bande dessinée que c'est Jack Kirby qui est quand même le grand génie, le grand créateur qui a fait jaillir toute cette mythologie. Et bien avant de rencontrer Stan Lee, Captain America a été co-créé avec Joe Simon dans les années 30-40, quoi. Donc voilà, c'est pas Stan Lee qui a créé Captain America, entre autres, quoi. Et beaucoup de personnages de la Marvel existaient déjà en germe dans des bandes dessinées de Jack Kirby des années 40-50, etc. Bon, ça c'est un autre débat, mais disons, moi, Jack Kirby, c'est quelqu'un qui a marqué ma vie. Depuis mon enfance, j'ai découvert ce dessinateur parce que ça a été un choc esthétique. Moi, j'ai eu trois chocs esthétiques dans ma vie d'adolescent, mais qui sont définitifs pour moi, qui sont trois artistes majeurs, c'est Jack Kirby, c'est Philippe Druyer et Moebius, quoi. Voilà, bon, moi, pour moi, la messe est dite avec ces trois grands dessinateurs de bande dessinée qui sont pour moi parmi les trois génies, tout art confondu, du XXe siècle, quoi. Dont un est encore vivant, Philippe Druyer, et voilà, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui est un génie absolu. Il y a une expo actuellement, d'ailleurs, en région parisienne sur son œuvre. Et donc, Jack Kirby, c'est ce grand créateur avec une puissance de création qui fait que je crois qu'il a, c'est entre 30 et 40 000 planches dans sa vie. Enfin, il y a eu des...
C'est énorme.
C'est énorme, quoi. Enfin, par jour, il pouvait dessiner plusieurs planches. Bon, c'était crayonné, qui devait être ancré par la suite, évidemment. Et Jack Kirby, donc, c'est une émotion artistique durant mon adolescence, qui me fait évidemment connaître les mythologies des super-héros, mais c'est avant tout un style graphique et complètement atypique.
Voilà, c'est ce que je voulais juste...
Il n'y a pas d'équivalent, quoi. Vous voyez, alors, il a été copié, mais voilà, donc c'est quelqu'un de très libre, et moi j'ai toujours été sensible à ces grands artistes, comme, bon, évidemment, dans la peinture, il y a Picasso, etc. Enfin, la notion de style est fondamentale, vous le savez, que ce soit en littérature et en art, et là, on est face à quelque chose de jamais vu à la fois dans la peinture, dans les arts plastiques en général. Donc là, il crée un style de toute pièce qui est à mi-chemin entre le réalisme et quelque part l'expressionnisme, qui se construit au fur et à mesure de sa vie. Et ça, ça m'a marqué. Et ça, c'est pareil pour Druyer et Moebius, qui eux-mêmes génèrent des styles complètement identifiables, qui sont uniques en leur genre et qui vont influencer à la fois les arts graphiques, le cinéma, on le sait, je veux dire, voilà, le cinéma de manière très large, la pop culture, mais et au-delà. Donc, Jack Kirby, qui est cette émotion artistique, et puis au fil des ans, un intérêt pour sa vie, et le croisement dans les années 2010 d'un ami, d'un grand ami, Jean Depellet, qui a écrit sa biographie française, qui est une somme absolument, enfin, j'ai jamais vu à l'échelle mondiale. Il a fait le plus gros travail sur Jack Kirby, donc il m'a présenté sa famille, et ensemble on a décidé d'écrire ce portrait sur Jack Kirby, qu'on a intitulé La guerre de Kirby, parce que il se focalise sur un épisode fondamental de la vie de cet artiste, qui est sa participation à la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, où il a participé aux grandes batailles après le débarquement en Moselle, etc., il a fait partie, entre guillemets, de la chair à canon américaine qui est allée combattre en Moselle. Donc il a été envoyé avec toute une série de pauvres types. Voilà. Lui, il provenait d'un quartier new-yorkais assez pauvre, etc. Donc bon, même s'il avait une certaine célébrité dans la BD à ce moment-là, il était déjà connu, il avait créé Captain America avant de partir donc sur le front en France. Il n'était pas suffisamment, entre guillemets, pistonné, entre guillemets, pour rester sur planqué. Là, j'emploie des mots un peu à la limite de la vulgarité, mais par provocation, comme l'a été Stan Lee, qui lui est resté tranquille aux États-Unis. Hein. Il s'est débrouillé pour rester aux États-Unis. dernier. Et le pauvre Jack Kirby, lui, il est parti avec d'autres copains, d'autres personnes de Brooklyn ou d'autres quartiers un peu pauvres de New York ou des États-Unis. Voilà. Et donc là, il a participé à ces grandes batailles très, très sanglantes. Il a vraiment vécu l'horreur, il a tué, etc. Il est resté dans des trous pendant des jours, des trous sous les bombardements, dans la nature. Et donc on a parlé de, on a voulu raconter ça avec mon collègue. Enfin, c'est lui qui a eu l'idée. Et bon, après, moi, on a adapté ça sous forme à la fois d'une visite, d'un suivi de son itinéraire en France durant la guerre, entremêlé de visions d'animation BD qui restitue un peu ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Et à travers ça, on a voulu montrer que probablement, c'est suite à cette grande expérience de vie qu'il a dû, à travers une résilience, il a survécu à cette expérience-là, et toute sa vie, finalement, il a été hanté par ces démons de la guerre, et ça explique énormément cette résilience. Donc c'est Boris Cyrulnik qui a été interviewé dans le cadre du film, et qui va évidemment dans le cadre de ce qu'on vient de dire. D'ailleurs, il dit carrément, Jack Kirby, c'est Hulk, quoi. C'est quelqu'un qui, du jour au lendemain, qui peut avoir des émotions très très fortes liées à la résilience, liées en fait à cette espèce de colère qu'il a à l'intérieur de lui, du fait des horreurs qu'il a vécues. Et en fait, il va se transcender et il va arriver à vaincre cette horreur à travers la création. Et toute sa vie, il va créer à une puissance phénoménale, comme s'il avait à la fois envie de protéger sa famille du besoin, mais également survivre à cette horreur. Et ça explique énormément cette puissance de création qu'il y a après-guerre et qui va aboutir au Marvel, ou dans lesquels il y a des parallèles évidents avec la Seconde Guerre mondiale, à travers les batailles intergalactiques, les Quatre Fantastiques, par exemple. Et donc, voilà, pourquoi la guerre de Kirby ?
Je poserai bien, bien d'autres questions sur la guerre de Kirby que j'ai eu la chance, le grand bonheur de découvrir, et que je vous invite également à découvrir, parce que ça vous permet de connaître un pan de l'histoire de la bande dessinée américaine et mondiale. Je connaissais bien plus, on connaît souvent bien plus Stan Lee. On en apprend davantage quand on regarde ce documentaire, ce film. Et on s'aperçoit que voilà, de l'importance de Jack Kirby. Et voilà, il ne nous reste que 2 minutes et demie à peine. C'est vraiment bientôt fini. On n'a pas vraiment le temps de dire grand-chose. Je tiens à souligner que moi aussi, j'ai eu la chance d'interviewer et de rencontrer Boris Cyrulnik, et qui apparaît dans le dernier ouvrage. Je l'ai interviewé dans une émission radio, et dans le dernier ouvrage qui s'appelle « La résilience narrative » auquel j'ai participé, il apparaît également. C'est cet entretien, en fait, qui a été reproduit. Et enfin, la résilience, c'est ce grand mot qui est si nécessaire dans nos vies. Et voilà, et je tiens presque enfin à vous dire que c'était un véritable plaisir. Et si je devais décrire Marc Azéma, ce serait le mot « humanité »,« humain ». Puisque donc il a parcouru, je crois, depuis donc la période de l'homme de Néandertal, il y a cette volonté déjà que vous essayez de transcrire également à travers le cinéma, à travers les bandes dessinées, à travers vos récits. Enfin, cette volonté de traduire des rêves, un ressenti. Et peut-être une dernière question. Je ne sais pas si on en a vraiment le temps, mais voilà. En tout cas, je vous cède la parole. Pourquoi l'homme ressent-il depuis si longtemps le besoin de représenter, le besoin de représentation figurative du mouvement pour transmettre ?
L'homme dessine, l'homme moderne dessine à partir du moment où il a l'aptitude à le faire, et à partir du moment où il a dessiné, il a figuré, il a raconté des histoires, et il y a ce besoin de raconter ou de transmettre des mythes ou des allégories, etc. Peu importe, ça c'est autre chose, mais c'est surtout la création de ce premier médium qui finalement contient en germe tout ce qu'on va connaître à travers les médias actuels, et à la fois la bande dessinée et le cinéma. Je dis bien la bande dessinée et le cinéma, parce que finalement pour moi, les 35 000 ans de préhistoire et d'histoire de l'art ne sont qu'une espèce de continuité qui rebondit par bombe technologique et qui fait qu'au 19e, la photo puis le cinéma vont faire que l'histoire de l'art va être chamboulée, et on va retrouver malgré tout les mêmes comportements qu'aux origines au fin fond des grottes ornées, quoi.
Merci beaucoup, Marc Azéma, de cette humanité, parce que déjà, c'était Jean-Paul Sartre qui en parlait, même avant déjà Jules Verne, et dans beaucoup de cultures, la culture basque aussi, on dit que ce qui n'est pas cité n'existe pas, ce qui n'est pas nommé n'existe pas, et donc ce qui n'est pas imagé aussi, eh bien, il en est de même. Vous laissez des traces pour l'avenir. Merci d'avoir fait partie de ce parcours, et merci d'être venu.
Merci beaucoup.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.